Bonjour à tous. Ça va, vous allez bien? On est très content avec notre famille de venir ici dans ce lieu. Alors Joël a tout dit. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer chaleureusement, en tout cas, et remercier Joël pour l'invitation. Ça, c'est important. Vous savez, vous avez un pasteur qui est extraordinaire. Ça fait... Allez, je le dis parce que c'est important aussi. Donc, il faut dire les choses. Ça fait après une dizaine d'années qu'on se connaît. Avec Sophie, on l'a rencontré à l'ITB. On faisait une formation juridique. Tu te rappelles, il y a 10 ans. Et vous savez, il y a des gens... On parle 2 minutes avec eux, on a le sourire. Ça vous parle? C'est votre pasteur, ça? Yes, priez pour votre pasteur, c'est vraiment yes, un grand pouce comme ça. Et surtout, avec le cœur, je le dis, parce que c'est aussi important, parce que la vie que nous avons en nous, en tout cas, reflète quelque chose du ciel. Amen. Et c'est la vie de Dieu qui rejaillit en nous, et ça, c'est tellement important. Aussi, avant de commencer, j'en profite aussi pour vous saluer chaleureusement de la part des Hauts-Savoyards. Bon, vous aimez la Haute-Savoie, là où les montagnes sont le plus haut en France. On a le Mont-Blanc juste à côté. Mais là, nous, on habite vraiment à côté de Genève. On est dans ce qu'on appelle le Grand Genevois. C'est Genève, c'est moitié Suisse, moitié France. Souvent, les gens ne le savent pas, mais on est pratiquement moitié-moitié. Côté Suisse, côté France, et Annemasse, c'est la grosse ville côté France. Et on est là et on sert le Seigneur de tout notre cœur. Il y a tout un chant, un défi. Et puis, sachez que quand, bien sûr, j'ai annoncé que je venais ici, l'Église prie et prie en tout cas pour ce temps. Et nous croyons qu'il y a une vraie dimension de communion fraternelle qui est là, qui est manifestée. Et ça, c'est bon. Amen. Priez pour les Hauts-Savoyards. Et puis, peut-être que dans un rêve, vous verrez, oh, la Haute-Savoie, allez, on passe en vacances. Vous allez voir, c'est merveilleux. La mer, c'est bien, mais les montagnes, c'est super aussi. Oh, que Dieu soit béni. Écoutez, je suis là aussi pour partager, en tout cas, la parole de Dieu. J'en profite aussi pour dire, tant qu'à faire, pendant, tant qu'on est dans l'introduction, Joël a introduit, en tout cas, mon papa qui est là, mais sachez que... dans mon histoire familiale, je suis passé plusieurs fois par ici. Alors, c'est la première fois que je prêche ici, mais je suis passé plusieurs fois par ici parce que ma tante Isabelle, qui est ici, il y a des années, elle a fait partie de l'église. Et puis, ma grand-mère a été membre de cette église. Et mon papa aussi a rejoint ici. Donc, vous avez nourri une partie de ma famille. Et vous le faites encore, alléluia, et pour ma part, en tout cas, je suis extrêmement reconnaissant de cela. On est dans une dimension, en tout cas, fraternelle. On n'est pas déconnectés, hein. On est connectés les uns les autres. Amen. Et ça, c'est important, on garde cette dimension, en tout cas, de simplicité devant Dieu, mais à la fois, on est vraiment reconnaissant. Et là, il y a mes enfants qui sont là, donc ça veut dire que ça fait déjà 4 générations de Madeira qui sont nourries dans cette église. Amen. Et vraiment, on se réjouit, et même plus, yes, yes, la famille. Que Dieu soit béni. Allez, je vais droit au but, ce que j'ai à vous dire. J'aimerais vous parler alors d'un homme que vous connaissez bien, il s'appelle Jonas. Vous connaissez Jonas? C'est un des livres très courts, on peut les lire très rapidement, 4 petits chapitres, et puis hop, on a toute l'histoire. Mais attention, on ne confond pas avec Pinocchio, hein. Jonas, il y a vraiment quelque chose qui est très important dans la vie de Jonas. Il y a un cœur, une personne qui est sensible à Dieu et Dieu lui donne quelque chose, une mission particulière, sauf que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Alors je titre mon message, Jonas, le missionnaire fugueur. J'espère que ça va vous parler, j'espère que je ne suis pas là pour vous pointer du doigt, juste pour vous dire en tout cas que... on est un petit peu complexes les uns les autres. On est aussi un petit peu fragiles, mais bonne nouvelle, nous avons une mission. Alléluia, tu as une mission? Et Dieu t'encourage vivement à vivre la mission que Dieu a pour toi. Alors, quand je parle de fugueur, pourquoi je parle de fugueur? Parce que si vous connaissez un petit peu l'histoire de Jonas, vous savez qu'il est parti à l'opposé, il s'est enfui. Et je crois que pour moi, un fugueur, c'est quelqu'un qui s'enfuit d'un cadre de vie, qui presque, il part à l'aventure. Il quitte tout, il s'enfuit. Et peut-être que toi, dans ta vie, ça t'est déjà arrivé de fuir une situation. Personnellement, ça m'est déjà arrivé. De fuir une situation parce que c'était trop intense, c'était trop dur, c'était trop compliqué. Alors, on ne sait pas trop comment gérer. Et puis, comme un ado qui ouvrirait la fenêtre de sa chambre et qui part, il fugue. De la même façon, peut-être dans ta vie, dans ton parcours, dans ton cheminement, tu as déjà vécu ça. T'enfuir. Un fugueur, pour moi, c'est quelqu'un qui... veut faire son propre chemin. En gros, il n'est pas d'accord avec le chemin qui lui est proposé. Et des fois, face aux chemins qui nous sont proposés par le Seigneur, on peut avoir des résistances. Un fugueur, c'est quelqu'un qui fuit ses problèmes ou qui fuit une situation sans le régler. Mais vous savez, quand on ne règle pas, on n'est jamais bien. Un fugueur, c'est quelqu'un qui dit « j'ai pas envie ». Avez-vous déjà dit ça à Dieu ? J'ai pas envie. J'ai pas envie. Et quand on y réfléchit avec un peu de recul, on a super honte de nous, on dit « Seigneur, qu'est-ce qu'on a dit ?» Mais des fois, on a des situations qui peuvent nous dépasser, et je crois personnellement que quand on manifeste, quand on fait des fugues, ça exprime souvent une sorte de découragement d'une situation. On n'a pas envie de fuguer en vrai. Mais il peut y avoir des fugues qui manifestent quelque chose à l'intérieur, et il est bon de pouvoir décrypter ce qui se passe. Alors Dieu nous invite à vivre des choses belles avec lui, il nous invite à nous investir dans son royaume, et malheureusement, des fois, on est capable de faire plein de choses, mais on ne veut pas faire le tour de ce que Dieu nous a montré, de ce que Dieu nous a dit de faire. On ne veut pas, en tout cas, proclamer le nom de Jésus, ou du moins on veut le faire, mais que quand on veut. Et il y a quelque chose d'insatisfait dans nos vies. Mais bonne nouvelle, Dieu est bon. Dieu est bon pour chacun. Il est bon pour toi, il veut t'amener à comprendre que c'est son chemin qui est le meilleur. Toi, tu as pensé un chemin, mais le chemin de Dieu, il est meilleur. Alléluia. Alors, je me base sur Jonas, on ne va pas lire tout Jonas, mais on va lire les trois premiers versets de Jonas chapitre 1. Comme ça, ça recontextualise mon propos. Il est écrit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. » C'est étonnant ce passage, parce qu'on voit que c'est l'histoire d'un gars, et ce Jonas, fils d'Amittai, Dieu lui parle, et vous savez quoi ? Avec ses deux petites oreilles, il entend parler Dieu. Hier, avec les jeunes, on discutait sur cela, on disait « Comment entendre Dieu ?» Dieu parle, alors je ne vais pas redire tout ce qu'on a dit, d'ailleurs, si vous avez des questions, vous allez voir les jeunes, vous leur posez des questions. Ça marche les jeunes, vous êtes OK ? Mais ce gars, il est sensible à la voix de Dieu, et d'un autre côté, il va fuir loin de Dieu. On retrouve Jonas dans 2 Rois, chapitre 14, verset 25, et on est à l'époque de Jéroboam 2, et on est dans le royaume du Nord, appelé communément Israël. Il y a Israël et Juda. Le royaume du Nord, c'est Israël, là où il y a les 10 tribus. Et alors, celui qui règne s'appelle Jéroboam II, et il dit « Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée d'Amath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole de l'Éternel, le Dieu d'Israël, que l'Éternel, le Dieu d'Israël, pardon, avait prononcé par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai, à Gath et faire. » C'est notre même Jonas. Alors, moi, je me dis, OK, à un moment, il a dû parler de la part de Dieu, et tout le monde reconnaît que c'est un prophète. On voit que c'est un gars, il sait parler. C'est un gars, il sait se lever. Peut-être que de parler au roi, ça, il est OK. Peut-être de transmettre un message pour les autorités, OK, ça, il sait faire, ça lui va. Mais quand il est question de se lever, d'aller voir des gens qui sont un peu plus loin que chez lui, qui ne sont pas dans son cercle à lui, là, il ne veut pas. Ça nous parle aussi. Nous, il y a des trucs qu'on veut, et puis dès que ça nous pousse un petit peu plus loin, on ne veut pas. Ça ne lui plaît pas. La mission que Dieu lui donne ne lui plaît pas. Ça vous interpelle, ça, ou pas ? Est-ce que ça vous révolte ou vous vous retrouvez là-dedans ? Je vous laisse réfléchir à ça, c'est important. Alors, on peut se dire, est-ce que c'est un problème culturel ? Alors, quand on lit l'Ancien Testament, on se rend compte que le peuple israélite n'a pas l'habitude d'aller voir d'autres peuples pour parler de la part de Dieu. Ce n'est pas vraiment dans la culture locale. Il va falloir tourner les pages de la Bible et arriver jusqu'au Nouveau Testament, l'Église, où là, bim, ils vont commencer à aller et à proclamer le nom de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Et d'ailleurs, Dieu va un peu les pousser, il va les forcer à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Pourtant, si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que dès le départ, le projet de Dieu, c'était quoi ? Qu'il répande ce message extraordinaire. Genèse 12, verset 3. Dieu parle à Abraham et lui dit « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ça veut dire que dès Genèse 12, il est déjà question que la bénédiction, elle aille jusqu'à toutes les familles de la terre. Jusqu'à ta famille, à toi, là où tu es. Dieu veut que toutes les familles de la terre soient bénies. Écoute-moi bien, c'est important. Pendant longtemps, ils ont été bloqués culturellement dans un truc. Non, on reste entre nous, c'est juste pour nous, pour les nôtres. Mais depuis le départ de la Bible, Dieu dit qu'il veut que sa bénédiction aille jusqu'aux extrémités de la terre. Ça va vraiment se mettre en place après la Pentecôte, et gloire à Dieu, mais en vrai, aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Et cette mission qu'il a donnée, et aujourd'hui, en tant qu'Église, nous sommes détenteurs de cette mission, c'est de proclamer le nom de Jésus. Alléluia ! Et puis d'amener tout le monde à la connaissance de Jésus-Christ, afin qu'ils puissent eux aussi devenir des enfants de Dieu, devenir des disciples de Jésus-Christ, qu'ils puissent s'engager et devenir affermis en Jésus-Christ. Alléluia ! Une mission qui est là, et je crois que nous avons besoin de réaliser que je peux bloquer la mission de Dieu parce que je suis bloqué dans ma tête. Je suis bloqué dans ma façon de faire. Il y a bien des choses qui sont prévues de la part de Dieu, parce que je crois que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Il y a des choses qui sont prévues de la part de Dieu, mais tant que dans ta tête, tu n'es pas prêt à le vivre, les choses ne se mettront pas en place. J'ai eu l'occasion, il y a quelques jours, Dominique m'a raconté l'histoire un petit peu de Istres et comment ça s'est passé au niveau de la construction et tout ça. Et ça m'a fait penser, il y a quelques années en arrière, dans l'église où j'étais dans le Jura, et puis on avait un vrai besoin. Un besoin, en tout cas, de changer nos locaux parce qu'ils étaient vraiment compliqués. Et ça faisait peut-être 30 ans qu'il était question de changer ces locaux. 30 ans, écoutez-moi bien. Et en 30 ans, ils sont allés de lieu en lieu en lieu, et à chaque fois, comme ils ne prenaient pas de décision, ils changeaient de lieu, ils se faisaient chasser, ils allaient dans un autre lieu. Et là, on était arrivé où carrément l'église était carrément sortie de la ville. Elle était en périphérie, au bord de la forêt. Et dans cette vision-là, on a prié et Dieu nous a parlé à plusieurs reprises pour nous montrer que Dieu nous veut au cœur de la ville. Il veut que l'Église, qui est un flambeau, nous sommes la lumière du monde, c'est pas vrai ? Il veut que l'Église soit au cœur de la ville. Et une fois qu'on était tous d'accord, là on priait à fond, « Seigneur, donne-nous une Église au cœur de la ville », il y avait cette dimension en tout cas, des projets qui commençaient à se mettre en place, il y avait des frères, ils étaient chauds bouillants pour trouver des locaux, et puis à chaque fois qu'on arrivait à un projet, il y avait une sorte de crainte, de peur. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que c'est possible ? Et là, à un moment de prendre des décisions, il y avait toujours un blocage qui était un blocage culturel. Et les années ont passé. Vous voulez la fin de l'histoire, parce que je n'ai pas envie de le laisser en suspense comme ça. Arrive un moment, à cause de ce blocage culturel, Dieu a dû prendre les choses en main. Écoutez-moi bien. À un moment, Dieu... alors là, moi-même en tout cas, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai quitté ce lieu, mais je suis resté en tout cas responsable au niveau légal de cet endroit. Dieu fait un truc un peu incroyable. Il permet encore qu'on avait un local, mais pareil, c'est toujours un local qui était en vue. Et là, Dieu permet que la chaudière éclate. Écoutez-moi bien, heureusement, il y a deux lieux de culte dans l'association et l'église de l'autre côté. Et là, en plein culte, paf, la chaudière éclate. Du noir de partout dans l'église. Et là, décontamination et les pompiers nous disent on ne peut plus utiliser ce local. Et là, en fait, Dieu force l'église à aller plus loin. Il force, il fait un coup de force pour que l'église sorte. Et quand l'église se rend compte que le lieu où ils sont est en plein cœur de la ville, ils disent « Waouh, Et puis merci Seigneur, par la grâce de Dieu, les choses se sont mises en place et aujourd'hui l'Église a pu acheter cela. Et d'ailleurs j'en profite pour saluer et dire merci aussi à l'Église d'Istre aussi, qui a pu aussi aider l'Église de Yona. C'est une réalité, hein. Merci à vous. Vous avez pu aussi aider l'Église de Yona et aujourd'hui l'Église est juste en plein cœur de la ville. Et quand on a fait l'inauguration et que tout le monde s'est rendu compte que Dieu avait répondu avec précision à chacune de nos prières, tout le monde a fait « Waouh !» Et vous savez ce qu'on a dit ?« Eh, c'est bien ça, mais si on est là, c'est qu'on a du boulot. Allez, go, on y va ! Allez, on fait la mission que Dieu nous a donnée. » Bref, allez, je continue sur ce texte. On peut se poser des questions, on se dit « Mais pourquoi ?» Il a l'intention de quitter la présence de Dieu. Jonas, il fuit, et c'est vrai que on voit dans le texte qu'il a un problème. Il n'aime pas les Assyriens. Il ne les aime pas. On peut se dire les choses vraies ? Des fois, on ne fait pas les choses parce qu'on a un problème avec l'amour. Il ne les aime pas. En plus, il sait exactement qui c'est, parce que quand vous regardez un petit peu le contour géopolitique de la région, l'Assyrie ne va pas encore envahir. Ce sera un siècle et demi après que les Assyriens, au temps de Sanchérib, vont venir et vont s'occuper de tout le royaume du Nord. Mais en attendant, il y a déjà les Assyriens qui sont dans le coin et puis qui ont une influence géopolitique, voire qui viennent et qui les asservissent avec des dotations financières. Bref, ils les connaissent. Et puis, quand vous lisez par exemple le prophète Nahum, vous lisez le prophète Nahum ? Vous avez... il faut le lire. Mais oui, le prophète Nahum, qu'est-ce qu'il dit sur les Assyriens ? Il dit qu'en fait, les Assyriens, c'est des bêtes assoiffées de sang. Autant dire que ça ne fait pas rêver ce genre de gars. Hein. Et lui, quand il pense à eux, la première chose qu'il fait, il dit non, on les laisse où ils sont, ils se débrouillent tout seuls. Mais vous savez quoi ? Dieu, il pense à eux. Nous, des fois, on voit des gens, ils sont bizarres, ils réagissent avec violence, ils réagissent avec plein d'intentions mauvaises, et on se dit, oh là là, surtout, je ne veux pas avoir affaire à eux. Mais vous savez quoi ? Dieu, il s'intéresse à eux. Dieu les aime. Et souvent, les gens qui souffrent, ils réagissent avec violence. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais, même si le péché est là, dans tout le cœur des hommes. Mais souvent, là, ce qu'on vit, les drames que l'on vit se rejaillissent de maintes et maintes façons. Alors, les Assyriens sont là, et puis clairement, il le pressent, et ça vous le voyez dans chapitre 4 de Jonas, il pressent qu'à un moment ou un autre, ils vont finir par les envahir, et il a raison, et ça va se passer bien plus tard. En tout cas, comprends une chose, le projet de Dieu ne se passe pas toujours avec les gens qui te plaisent bien. Le plan de Dieu, il se passe avec des gens avec qui tu n'as pas forcément de l'affinité. Dieu même t'invite à travailler avec des gens où tu n'as pas forcément un feeling. Dieu t'invite à aller voir des gens avec qui tu n'as pas forcément un feeling. Mais Dieu te dit que tu es une lumière dans ce monde. Tu n'es pas de ce monde, mais tu es dans ce monde. Et tu es une lumière dans ce monde. Alléluia ! Brille, mon frère, ma sœur, brille. Brille pour Jésus-Christ. De Corinthiens 5, 20, nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est notre message, ça. Notre message, c'est soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia ! Nous sommes des ambassadeurs de Christ et nous proclamons ce message. Il ne veut pas y aller parce qu'en fait, il refuse la mission que Dieu lui donne. Je crois qu'il est aveuglé par bien des choses. Et nous avons besoin de faire attention à nos yeux. Nos yeux, ils sont précieux. Hein. On doit faire attention parce que la Bible nous dit que l'ennemi de notre âme, il nous aveugle. Et même si Christ est dans ton cœur, tu peux te laisser attraper par une sorte d'aveuglement. Mets du collier sur tes yeux. Vous relirez dans l'Apocalypse. On a besoin que nos yeux soient lavés pour que nos yeux puissent être là. Et puis... avoir une vision claire de ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas juste qu'on vienne à l'Église. C'est formidable de venir à l'Église. On aime l'Église, et l'Église, c'est Jésus qui l'a bâtie, et c'est formidable, et on se sent bien à l'Église. Alléluia ! C'est merveilleux d'être à l'Église. Mais la mission de Dieu, ce n'est pas juste de venir le dimanche matin à l'Église. La mission de Dieu, c'est d'être un ambassadeur de Christ 24 heures sur 24. C'est la mission de Christ. Ma vie, elle a du sens parce qu'il y a une mission qui est là. Croyez pas que Dieu nous met là pour qu'on attende que ça se passe. On a tous une mission, nous sommes tous des pierres vivantes. Dans cette église, ici à Istres, chacun d'entre vous, vous êtes des pierres vivantes, vous avez reçu Jésus-Christ. Vous êtes une pierre vivante, alléluia. Vous avez des capacités, des choses que Dieu vous a données, il faut les mettre au profit du royaume de Dieu. Pour la gloire de Jésus-Christ, amen. Et nous ne voulons pas juste écouter, et puis après des fois dire, oh non, on verra une prochaine fois. Je crois qu'il est bon de mettre en pratique ce que Dieu nous a donné. Et merci Seigneur, en tout cas, pour l'Église. Et puis, nos arguments pseudo-spirituels, et là, je ne vous connais pas, mais dans les églises où je suis passé par plusieurs églises avant d'être en Haute-Savoie. J'ai souvent eu des fois des remarques du genre... oui, on verra, peut-être plus tard. Une fois, je demandais un service à quelqu'un, il me dit, écoute, je vais prier, et puis si Dieu me dit OK, j'y vais. Je lui dis, non mais, je te demande de me donner un coup de main pour déplacer les chaises, ça va. Ça va, t'es pas obligé de prier, t'as deux mains, t'as un peu d'énergie, ben viens avec moi, on y va. Je prends un exemple comme ça, juste pour montrer des fois des modes de fonctionnement qui sont là. Écoute, en tout cas, il y a des choses qui sont prioritaires. Notre vie sera vraiment heureuse que si on vit le projet de Dieu. Tant que tu fais l'inverse, tu as fait demi-tour comme Jonas, tu fonces direction Tarsis. Et d'ailleurs, c'est pas moche, hein, Tarsis, c'est un beau coin. Et d'ailleurs, je me suis intéressé, c'est où Tarsis ? Parce que, étant donné que là, je suis en famille, dans le bureau de ma tante, j'ai vu plein de photos et j'ai regardé c'est où Tarsis. Et en fait, Tarsis, c'est entre... Ah, je vais perdre le truc. Cadix et Huelva. C'est ça, je ne me trompe pas. C'est dans la région de Séville. Et ça parle à ma petite histoire familiale. Avec mon papa, vous lui irez lui demander où est-ce qu'il est né. Et je comprends qu'on a envie d'aller par là-bas, parce que c'est super. Hein. Mais en vrai... Si Dieu veut que tu ailles là-bas, tu vas là-bas. Mais si Dieu te dit que tu vas de l'autre côté, tu vas de l'autre côté. Tu vas de l'autre côté. Et ça, c'est important de bien comprendre cette dimension-là. Nous ne sommes pas là pour faire ce que nous voulons, non pas ce que je veux, mais... Gethsemane. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, Seigneur, ce que tu veux. Et je crois qu'on est d'accord pour cela. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Je regarde l'heure. Je crois qu'il y a aussi une autre réalité. Quand on fuit, il se passe des choses à l'intérieur. Vous imaginez bien que Jonas, il n'est pas bien quand il est sur le bateau. Et des fois, on vit des situations qui durent, où on n'est pas bien. Et moi, j'ai envie de te dire, pourquoi ça doit durer ? Si t'es pas bien, cherche Dieu. Si t'es pas bien, crie à Dieu. Moi, je crois qu'il y a un problème à l'intérieur de Jonas, un problème. Pour moi, il dépérit psychologiquement, Jonas. Il est tellement mal à l'intérieur, il va se cacher au fond de la cale. Et puis, plus on se cache, plus on est mal. J'ai noté, je vous le lis en latin. Plus on s'éloigne de la lumière, plus on s'approche des ténèbres. Plus on s'éloigne de la vérité, plus on s'approche du mensonge. Plus on s'éloigne de la sagesse, plus on s'approche de la folie qui amène à la destruction. En fait, personne n'a envie des ténèbres, personne n'a envie du mensonge, personne n'a envie de la folie et de la destruction, mais nos actes veulent des fois dire ça. Alors je veux faire des choix. Le choix de m'approcher de la lumière, et Jésus est la lumière de ce monde. Alléluia. Je fais le choix de m'approcher de la vérité, et Jésus est la vérité. Je fais le choix de m'approcher de la sagesse, et la sagesse, tu la trouves dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors j'avance, et puis je crois en tout cas que dans ces circonstances, même si ça ne va pas bien au fond de toi, quand tu commences à manifester des trucs comme Jonas, du genre « jetez-moi à l'eau », c'est franchement que ça ne va pas bien. Et là, dans ce cadre-là, il ne faut pas que tu restes tout seul chez toi. Va voir ton pasteur. Non, mais je rigole pas. Hein. Vous imaginez, le gars, il dit, ça ne va pas, c'est la tempête, les gars, bah, mettez-moi à l'eau. Ça veut dire quoi ? Allez, c'est parti, je vais mourir. Lisez Jonas, il y a quatre mini-chapitres, et à trois reprises, Seigneur, je veux mourir. Il y a un ricin, il n'y a plus le ricin, Seigneur, je veux mourir. En fait, il ne va pas bien à l'intérieur, le Jonas. il va vraiment pas bien. Et vous savez quoi ? Même s'il va pas bien, Dieu est quand même là. Si tu vas pas bien, toi aussi, Dieu, il est quand même là. Il ne t'a pas abandonné, il fait pousser un ricin, il fait du bien, et il essaye d'amener Jonas à vivre quelque chose de bon, quelque chose de sain, quelque chose selon son plan, parce que ton bonheur dépend de son plan, et non pas de ton plan. Et peut-être que tu ne le comprends pas, mais il faut vraiment que tu regardes à Jésus-Christ, et que tu avances. Tu ne peux pas rester dans une situation compliquée. Et puis en plus, histoire du bateau, dans son malheur, il entraîne les autres. C'est tout le monde qui a les chavirés. Souvent, c'est ça, dans notre malheur, on oublie qu'on embarque les autres. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Il est là, il est avec nous, et il est capable, en tout cas, de nous sauver de n'importe quelle de nos tempêtes. Il est capable de dire « Silence, tais-toi », et la tempête s'arrête. Alléluia ! Jésus, il est toujours le même. Hein, il agit toujours de la même façon. Bref, je crois en tout cas que dans toutes ces situations les plus compliquées, il est possible de revenir dans le projet de Dieu. Il est possible de le faire. Je remarque, par ma petite expérience, ça fait 15 années que je suis à plein temps dans le ministère et j'ai eu l'occasion de discuter avec plein de gens. Souvent, malheureusement, les gens ils se confrontent au mur pour dire « Ah oui, mince, je suis du mauvais côté ». On n'est pas obligé de se prendre un mur pour faire demi-tour. Tu n'es pas obligé que Dieu doive t'arrêter physiquement parlant. Là, il va tomber dans l'eau, un poisson l'attrape. Et il est même écrit littéralement que les eaux l'ont submergé. En gros, je n'aurais pas à dire ce qui s'est passé cliniquement parce qu'on ne peut pas être catégorique, mais ça laisse bien penser qu'il est quasiment mort. Hein. Tu n'es pas obligé d'en arriver là pour revenir vers le Seigneur, revenir vers le projet de Dieu. Dieu te dit, il t'aime. Il veut t'amener avec douceur, mais aussi avec vérité, dans son projet. Jonas 2:3, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé du sein du séjour des morts. J'ai crié et il a entendu ma voix. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre. Ça, c'est extraordinaire. Dieu délivre encore aujourd'hui. Amen. Il délivre. Et même si tu te sens comme enserré, tu n'arrives même plus à bouger parce que tu es comme Jonas dans son poisson. Des fois, on se débat dans tous les sens, on n'y arrive pas. Dieu délivre aujourd'hui. Alléluia. Alors, crie à l'Éternel. Parce que même si tu es au fond de l'eau, même si tu as l'impression que tu es au tréfonds, si vous lisez Jonas, il dit qu'il est à tout en bas au niveau de la base des montagnes. C'est assez étonnant comme image. Mais il est vraiment tout au fond. Il crie à l'Éternel et l'Éternel le délivre. Ça veut dire que quoi que tu vives, Dieu peut te délivrer. Parce qu'il t'entend, il entend ta voix. Et même si tu as fait des choses qui sont un peu folles, comme Jonas, à mon sens, a fait des trucs qui étaient plutôt fous. Faire tout l'inverse de ce que Dieu te demande, c'est de la folie. Parce que Dieu nous dit c'est quoi le bon chemin. Il veut notre bonheur. Alors, ne te dis pas, c'est terminé pour moi. Ne prends pas des versets hors contexte pour imaginer que ça y est, c'est fini pour toi, Dieu peut rien faire pour toi. Il peut faire quelque chose pour toi. Il peut te changer, il peut te transformer. Alléluia ! Il peut te bouleverser. Oh Jésus, à toi soit la gloire. En tout cas, un nouveau départ est possible. Même si ce nouveau départ il commence par être recraché par un poisson, un peu gluant, recraché par un poisson. Mais le plus important, c'est quoi ? C'est la vie. Des fois, on a quelques petites conséquences à nos inconséquences. Mais Dieu est bon quand même. Alléluia ! Dieu est bon quand même et il veut nous sortir. Et pour moi, en tout cas, quand je vois cette situation, je me dis qu'en fait, ayons le bon état d'esprit dès le départ. On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas comprendre. Tu as le droit de dire à Dieu, Seigneur, je ne comprends rien. Mais s'il te plaît, mon frère, ma sœur, accepte que la parole de Dieu, c'est la vérité. Accepte que ce que Dieu te demande, c'est le meilleur pour ta vie. Et vis-le avec simplicité. Tu verras que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Toujours, elle s'accomplit. Même si tu ne comprends pas. Même si ça dépasse ton entendement, fais confiance à Dieu. Et puis, regarde Jésus. Jésus, tout ce que le Père lui a montré, il l'a fait. Je n'ai rien fait que le Père ne m'a montré. Regarde à Dieu, regarde à Jésus et fais comme ton maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Il est bon de demander à Dieu qu'il nous bénisse, qu'il nous donne des forces. Il est bon que je demande à Dieu des différentes bénédictions, mais il est bon de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi ? Je ne veux pas perdre mon temps. Je veux que ma vie ait du sens. Et ce sens, il passe par ta mission. La vie ici-bas, elle est courte. Mais pendant ce laps de temps de la vie, il y a des choses extraordinaires à vivre. Je n'ai pas envie de passer mon temps devant la télé. Je n'ai pas envie de passer mon temps à écouter les autres raconter des histoires, des témoignages. Je veux vivre ton projet, alléluia. Et ce projet, il passe quand tu rentres dans le projet de Dieu. Sois participant, mon frère, ma sœur, sois vivant dans le projet de Dieu parce que, au final, une fois que le poisson a été recraché, a recraché Jonas, il va reprendre quelque chose de nouveau. D'ailleurs, petite info technique, si vous aimez les trucs, moi pendant longtemps j'ai cru que Jonas, il avait été recraché directement à Ninive. Sauf que en 3 jours et 3 nuits, impossible de faire tout le tour de la mer. Et puis après, il aurait fallu qu'il remonte le Tigre de mémoire. Et c'est pas possible. Donc en fait, Jonas, il est dans la Méditerranée et le poisson le recrache où ? Là où il a commencé à prendre le bateau. Retour au point de départ. Allez, nouveau jeton, on recommence. C'est pas un mal de se dire, mais en fait, j'ai fait tout ça, et puis finalement, je retourne au point de départ. Ne stresse pas par rapport à ça. Dis simplement merci Seigneur, parce que tu me donnes encore une fois une nouvelle chance. Je recommence. Retour au point de départ, et là, il est écrit que il va jusqu'à Ninive. Il va jusqu'à Ninive. Ça veut dire qu'il prend ses 2 jambes et il y va. Nous, on aimerait bien des fois être téléporté dans le projet de Dieu. Seigneur, tu l'as fait pour Philippe, téléportation. Et après, je retourne dans mes petites activités. Non, tu dois t'investir dans le projet de Dieu. Et l'investissement dans le projet de Dieu, c'est une implication personnelle qui demande aussi ton énergie. Mets de l'énergie pour le royaume de Dieu. N'attends pas que ça vienne tout seul. Je le dirai en langage familier, bouge-toi, vas-y, fonce dans le projet de Dieu, dévore la parole de Dieu, vois ce que Dieu te demande et fais-le. Et vous savez quoi ? Quand il est écrit, Jésus dit, au moment de partir, il va mourir à la croix et il va dire, mission accomplie. Ah non, tout est accompli. Non, c'est pas mission impossible, parce qu'il l'a fait, hein. Mais mission accomplie, c'est fait, c'est payé, bam! Et vous savez quoi? À chaque fois, Dieu nous donne une mission, et tant que tu n'as pas fini la mission, il ne t'en donnera pas la suivante. Des fois, tu es déjà dans ta tête dans la mission suivante, mais Dieu te dit, il faut que tu termines ta mission déjà. Il faut que tu fasses ce que je t'ai demandé de faire. Et arrête de rêver à demain, même si tu peux prier pour ça si tu veux, mais vis aujourd'hui la mission que Dieu t'a donnée, maintenant, auprès des tiens, auprès de tes collègues de travail, auprès de tes voisins, parce que des fois, on est tellement loin qu'on est déconnecté des gens qui sont à côté de nous. Et la vie nous apprend. La vie nous apprend que si Dieu nous place à un moment, à des endroits, quelque part, c'est toujours pour une raison. Un jour, j'ai appris ça, j'habitais à Lille. Quelqu'un connaît Lille ? Waouh, il y a des chimies parmi nous ? Bon, yes ! Bon, moi, j'ai juste fait un an de chimie, mais c'était bon. En tout cas, Dieu nous a conduits là, et m'a conduit là, à l'époque de mes études, et j'avais un voisin. Et un jour, je me disais toujours, il faut que je lui parle de Jésus, et puis un jour, je ne le vois plus. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Sauf si c'était des trucs, vous savez, alors, je ne sais pas si y en a qui connaissent, c'est une porte d'entrée, un appartement, on dit ça, une porte, une fenêtre là-bas. Alors que moi, j'étais au deuxième étage, et puis celui qui était au rez-de-chaussée, je ne le voyais plus, alors je le voyais tout le temps. 2 mois, 3 mois passent, je n'ai même pas son téléphone. Et là, dans mon cœur, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Puis un jour, je le revois avec une énorme minerve, et il me dit, écoute Samuel, viens, alors... On est à Lille, il m'invite, il me paye une bière. C'est comme ça. Alors ok, pas de souci. Il n'y a rien de mal avec modération, bien évidemment. Et puis il me raconte, il me dit, voilà, j'étais là, juste sur l'entrée, là où je passais tous les jours, et j'ai glissé à ce moment-là, j'étais un peu mouillé, j'ai glissé et ma tête a tapé sur le rebord de l'escalier. il s'est cassé littéralement la colonne vertébrale là. Alors il s'est senti pas bien, alors il s'est couché et il m'a dit qu'il aurait fait juste un simple petit mouvement et c'était fini de lui. Vous savez quoi, moi dans mon cœur il y avait... Vous savez quoi, c'est pourquoi j'avais la pression? Parce que je me suis dit, cet homme a failli mourir et j'étais pas là. Cet homme a failli mourir et moi j'étais juste dans les intentions, faut que je lui parle, faut que je lui parle, faut que je lui parle. Et alors vous savez ce que j'ai fait? Direct, je lui ai parlé de Jésus. Direct, et je l'ai amené, après il a fait son cheminement, cet homme, mais au moins il a entendu l'évangile. Et puis quelques années plus tard, je me retrouve, je suis avec mon épouse, on est sur Angoulême, en Charente, et puis une de mes voisines, souvent, elle me disait « Arrêtez de courir, arrêtez de faire du bruit !» Non, non, mais on ne court pas, on vit, normal. L'immeuble résonnait beaucoup, puis un jour, j'ai eu l'occasion de discuter particulièrement avec elle. Elle me demande de venir, et puis elle m'ouvre la porte, elle m'encourage en tout cas à l'aider, alors je l'aide. Et puis dans la conversation, je lui parle de Jésus-Christ et je l'encourage vivement à donner sa vie à Jésus-Christ. Et là, j'ai un doute, mais je crois même que j'ai prié avec elle. Deux jours après, un camion passe dans notre rue en bas de chez nous, la renverse et elle décède sur le coup. Non, mais et là, en vrai, je me dis, waouh, Seigneur, tu m'as placé là pour que je parle à cette femme. J'aurais pu m'occuper de mes affaires, mais en fait, en vrai, tu m'as placé là, dans cet immeuble, et je ne vais pas vous faire tous les détails, mais avec ma femme, on pourrait vous raconter avec précision comment Dieu nous a placés là. Tu nous as placés là pour rien. Dieu t'a mis dans cette maison, ce n'est pas pour rien. Il t'a donné ses voisins, peut-être qu'eux, ils ne t'aiment pas, mais il n'empêche que Dieu t'a donné de l'amour pour eux. Il faut que tu brilles, même si tes yeux ne verront rien, tu n'en sais rien, mais au moins, Dieu te demande, en tout cas, de pouvoir briller pour eux. Ton collègue de travail un peu bizarre, là, tu as le droit de lui dire que toi, tu as des règles de vie. Hein. Mais en attendant, il faut qu'il voit que l'enfant de Dieu, il ne vit pas comme les autres. Et ça, c'est important. Dieu t'a donné une mission et je crois en tout cas qu'il est important de vivre cela. Et Jonas arrive à Ninive et il fait simplement ce que Dieu lui demande. Et en plus, il ne le fait pas avec bon cœur, mais il est juste dans une dimension d'obéissance simplement. Et on se rend compte d'un truc dans cette histoire, c'est que quand juste il obéit à la parole de Dieu, ça marche. Des fois, tu crois que c'est compliqué de faire, il faut que je fasse ci. Franchement, il n'était pas hyper motivé, Jonas. Il obéit à ce que Dieu lui demande de faire et ça marche. On en rajoute bien des choses quand même. Obéis à la parole de Dieu. Fais ce que Dieu te demande de faire. Et après, tu laisses ça entre les mains de Dieu et tu verras qu'une joie parfaite va se développer dans ton cœur et puis tu verras que Dieu est bon. D'ailleurs, Jonas le savait bien, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne voulait pas y aller. Il le savait bien que s'il annonce ce message de la repentance, du salut, les autres entendront et seront sauvés. Et au fond de toi, il faut que tu saches que tu aies cette même conviction, que quand tu vas parler de Jésus, même si tu ne vois rien avec tes yeux, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose dans cette ville d'Istre, il va se passer quelque chose dans cette région, il va se passer quelque chose au nom de Jésus-Christ. Alléluia, je le proclame avec cœur, mais je crois que c'est vrai. Il va se passer quelque chose. Alors, agis, lève-toi, travaille, écoute ce que Dieu a à te dire. Et puis, laisse-toi diriger par le Seigneur. Et puis, ah oui, la mission que Dieu nous a donnée, c'est baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et faire de toutes les nations des disciples. Quand t'as brillé auprès de quelqu'un, accompagne-le. Des fois, c'est facile de dire à quelqu'un, il faut croire en Jésus, il faut croire en Jésus, il faut croire en Jésus. Et puis, débrouille-toi. La mission de l'Église, notre mission, qui n'est pas juste la mission du prédicateur, mais qui est la mission de chacun d'entre nous, c'est d'accompagner des hommes et des femmes à devenir des disciples de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'en fait, tu as ta place. Et j'ai envie de te poser la question, quand tu vas accompagner quelqu'un, tu vas lui raconter quoi? Réfléchis à ça. Réfléchis à cela. Et qu'est-ce qui est important dans la vie chrétienne? Si c'est vraiment important, tu vas le vivre. Et puis tu vas le communiquer aux autres. Et tu verras que la parole de Dieu, elle est bonne, mais en plus elle fait du bien aux autres. Et les autres ont aussi besoin d'entendre ce message qui est tout écrit dans la parole de Dieu pour chacun d'entre nous. Alléluia. Alors, j'en arrive sur un élément de conclusion et peut-être je peux inviter les musiciens à s'approcher si vous voulez bien, en tout cas. Et puis, la question que je vous pose, c'est est-ce que je veux être un Jonas qui va faire les choses parce que vraiment, il n'y a pas le choix, ou est-ce que je veux être zélé pour l'Évangile? Ah, je les aime, ces chaussures, elles sont super. Le zèle que donne l'Évangile. C'est quoi que je veux faire? Et je t'encourage, parce qu'en fait, c'est une question qui demande une réponse. Tu as envie d'être un Jonas, tu vas faire que vraiment, quand Dieu te pousse, parce que tu n'as pas le choix, et tu vas le faire en tirant des pieds, en traînant des pieds, pardon. Ou alors tu vas le faire avec cœur. Oh oui, Seigneur, tu me dis un truc, je vais le faire. Alléluia! Oh Seigneur, je suis impatient, parle-moi, me voici, Seigneur. J'ai vraiment envie de vivre ton projet, Seigneur. Alléluia! Seigneur, j'ai besoin de toi, tu m'appelles à Ninive? Go, j'y vais. Aujourd'hui, ça s'appelle Mossoul. Tu m'appelles là-bas? Alléluia, j'y vais. Combien c'est important, je crois que Dieu nous attend à avoir quelque chose qui est là auprès de notre cœur. Il veut en tout cas que nous puissions répondre et Dieu ne nous a pas donné un mandat généraliste, il nous a donné un mandat personnel. Amen. Tu as un mandat de Dieu. Tu as un mandat de Dieu. Alléluia. Tu es un ambassadeur de Christ. Et ne crois pas que l'ambassadeur, il n'a pas d'autorité. L'ambassadeur, c'est l'ambassadeur de France dans un autre pays, il a une autorité quand il parle, il représente son pays. Toi, quand tu parles, tu représentes le royaume de Dieu. Là où tu es. Et en fait, ne crois pas que tes mots, c'est des mots en l'air comme ça. C'est pas juste ça t'est venu comme ça. Le Saint-Esprit qui est en toi, il va te donner des paroles. Mais il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Dieu te conduit. Et il faut que tu t'engages à cela. Peut-être même si tu sens rien, je ne te demande pas de ressentir quelque chose. Je t'encourage juste à faire un choix. Le choix de s'engager pour la cause de Jésus-Christ. Le choix de s'engager pour Jésus-Christ. Amen. Et je crois qu'il y a une réalité qui est là. La réalité, c'est que nous, Jésus revient, c'est une vérité. Jésus est là et son retour est imminent. Et la Bible nous dit que s'il tarde, c'est parce qu'il veut en sauver un grand nombre. Et donc, ça met sur nos cœurs, chacun, une dimension de pression. Moi, je le ressens comme ça, il y a comme une pression qui est là. Et cette pression, c'est « Seigneur, tu tardes parce que tu m'as envoyé et que tu veux que je finisse le travail que tu m'as demandé de faire. » Alors, je n'ai pas envie de passer à côté, mais je veux vraiment, délibérément en tout cas, marcher dans ton projet. Alléluia. Et je crois qu'on a besoin de s'incliner devant le Seigneur. Et puis, je veux faire aussi un appel, alors que peut-être les musiciens, après, ils vont pouvoir nous conduire dans un chant. Et peut-être même ce chant, si c'est possible, vous allez chanter « Je m'abandonne ». Je pense que ce serait super, c'est un chant qui irait bien, si c'est possible. Et je crois que c'est important que nous puissions comprendre aussi cette dimension, la dimension que nous avons. C'est que nous devons nous approcher de Dieu. Et si tu te sens comme Jonas au fond de ta cale, il faut que tu puisses crier à Dieu ce matin. Il faut que tu puisses crier à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai fait demi-tour et vraiment, je regrette tellement d'avoir fait demi-tour. Je regrette tellement d'être passé à côté de ton projet, Seigneur. Mais ce matin, je ne veux pas encore dire oui, c'est vrai, ça a l'air intéressant, mais je veux rentrer dans ton projet, Seigneur. J'ai besoin de toi. Il y a une dimension d'abandon, et comme ce chant va l'exprimer, il y a une dimension d'abandon. Je vais abandonner mes projets pour dire, Seigneur, tes projets. Je sais que tes projets, ils sont bons, je sais que tes projets, ils sont merveilleux, mais conduis-moi, dirige-moi, oriente-moi, Jésus. Et si quelqu'un dans ce lieu a besoin de faire la paix avec Jésus-Christ, je t'encourage là où tu es à dire à Jésus, Jésus, pardonne-moi, je veux être avec toi. Viens agir dans ma vie, viens agir dans mon cœur. Tu peux le dire avec tes mots, hein, là où tu es, on est dans un temps devant Dieu. Tu peux dire, Seigneur, viens transformer ma vie. Et Dieu va le faire. Il est capable de te faire passer de la mort à la vie. Parce que Dieu crée toutes choses nouvelles. Amen. Alors, vraiment, je t'encourage. On va prendre ce temps, en tout cas un temps de prière devant Dieu, un temps de recueillement. Et on va se dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et puis, il y a un deuxième appel. Ce deuxième appel, c'est pour chacun. Est-ce que tu veux être engagé pour le royaume de Dieu? L'appel est lancé et tu peux rester sur ta chaise en disant « Moi, je veux juste écouter ce qui se passe. » Mais tu peux dire « Seigneur, moi je suis OK. Me voici pour te servir, Seigneur. Me voici pour travailler pour ton royaume. Me voici pour te remettre ma vie parce que je crois que ma vie a du sens dans ton projet, Seigneur. Alors conduis-moi, dirige-moi, oriente-moi, Jésus-Christ. Alléluia. » Si tu crois à cela, alors je t'encourage à prier. Je propose qu'on prie tous ensemble. Simplement, dans un premier temps, on prie tous ensemble. Et ça, t'as besoin de donner ton cœur à Jésus-Christ. Dis à Jésus, Jésus, aide-moi. Jésus, pardonne-moi. Tu as besoin de t'engager, en tout cas, pour vivre quelque chose avec le Seigneur. Alors, là où tu es, commence à dire au Seigneur, Seigneur, viens, dirige mes pas, conduis mes pas. Seigneur, je veux revenir sur le sentier de ta mission, Seigneur. Je veux revenir sur ce que tu as prévu. Alléluia. Jésus, conduis ma vie. Amen. Je propose qu'on élève la voix tous ensemble. Je veux pas prier tout seul. On prie tous, chacun, élève ta voix. Et tu peux même le faire avec la bouche ouverte, en priant à haute voix, afin que tes mots soient clairs et que tu puisses les exprimer clairement devant le Seigneur. Jésus, nous sommes là devant toi, Seigneur, parce que nous savons que tes projets sont les meilleurs. Et même si on ne comprend pas tout, Seigneur, nous savons, Seigneur, que notre bonheur, mon Dieu, Seigneur, il est en toi, Jésus, Seigneur. Il est dans ton projet. Et nous prions, Seigneur, les uns avec les autres, mais surtout, Seigneur, pour nos cœurs, afin que tu nous conduis, tu nous diriges dans toutes tes voies. Jésus, béni soit ton nom. Louange à toi, Seigneur. Viens nous renouveler, Seigneur. Viens nous amener les uns les autres. Focus sur toi, Jésus-Christ. Parce que, Seigneur, nous avons, mon Dieu, Seigneur, la vie éternelle avec toi, Seigneur. Et cette vie éternelle, elle n'est pas pour nous, elle est aussi pour les autres. Donne-nous, mon Dieu, Seigneur, de savoir partager. Oh, Jésus, on aime partager, on veut partager abondamment, Seigneur, à tous les amis qui sont autour de nous, afin qu'ils te connaissent. Alléluia. Amen. 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 Et je voudrais inviter tous ceux qui ont prié, qui ont dit « Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, pardonne-moi. » Je voudrais simplement prier avec ces personnes, juste afin que Dieu les conduise et les dirige. Est-ce que quelqu'un dans ce lieu a dit à Jésus, on a les yeux fermés, juste « Jésus, j'ai besoin de toi. Pardonne-moi, je reviens vers toi. » Vous faites juste un petit signe, moi je prie pour vous. Alléluia. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Viens me transformer. Ouais, ouais. Alléluia. Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. Ouais. Amen, amen. Et puis, je vous invite aussi peut-être tous ceux qui disent « Jésus, je veux te suivre, je veux m'abandonner à toi », alors à te lever là où tu es, et puis on va chanter ce cantique « Je m'abandonne ». Alléluia, ensemble. Si vraiment, pas, te lève pas parce que ton voisin se lève, lève-toi parce que tu veux t'abandonner entre les voies de Dieu, lève-toi parce que tu as besoin de Dieu et que tu as besoin de vivre le projet de Dieu. Alléluia, je m'abandonne. Alléluia. Oh.